La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance à travers les ondes, par internet sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique Reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Non, elle n'est pas réservée à la cour de récréation ni à l'entraînement des boxeurs. La corde à sauter est idéale pour se remettre au sport en douceur ou compléter ses sessions de renforcement musculaire. Si vous avez envie de reprendre le sport ou d'ajouter un peu de cardio à vos entraînements, pensez corde à sauter. En version adulte, le jouet de notre enfance permet en effet de travailler l'endurance. Le cœur et le système respiratoire sont fortement sollicités dans cette activité intense qui permet d'augmenter la résistance cardiaque et la capacité pulmonaire. Le retour veineux aussi, car les impulsions au sol stimulent la circulation sanguine. En pratiquant le saut à la corde, vous améliorez également votre endurance musculaire. C'est la capacité des muscles à exercer une activité physique prolongée. De ce point de vue, ce sport est idéal puisque tous les muscles ou presque sont mobilisés. En haut du corps, bras, épaules et pectoraux sont engagés dans le mouvement de rotation de la corde. Dans le bas du corps, tous les muscles sont sollicités du pied au fessier. Sans oublier la sangle abdominale qui doit rester bien guinée pendant toute la durée de l'exercice. Résultat, le corps tout entier est tonifié et affiné. Pour les néophytes, l'entraînement doit commencer doucement et progressivement car la sollicitation de ces muscles est si importante que les débutants ne devraient pas dépasser 5 minutes au cours des premières séances.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. L'épidémie de Covid-19 continue de distiller son lot d'incertitudes. La période qui suit l'accouchement n'échappe pas à la règle. De retour à la maison, quelle attitude adopter pour protéger votre petit ? Pendant l'épidémie de coronavirus, comment s'effectue un retour à la maison en toute sérénité ? Cette question, chaque nouveau parent se l'est immanquablement posée. L'arrivée de votre enfant doit être suivie par des examens réguliers. La plupart du temps, pour plus de sérénité, vous avez organisé votre suivi et celui de votre bébé dès le 9e mois de votre grossesse. Dans le cas contraire, la maternité l'organisera avec vous avant la sortie. Pour faciliter votre retour, vous pouvez bénéficier à votre domicile d'un suivi par une sage-femme pour vous et votre enfant. Et une consultation est à prévoir entre le 6e et le 10e jour, de préférence avec un pédiatre ou avec un médecin généraliste. Mais au quotidien, d'autres interrogations voient le jour. Par exemple, pouvez-vous allaiter bébé en toute sécurité ? En fait, dans la mesure où le SARS-CoV-2 n'est pas retrouvé dans le lait maternel, rien ne vous en empêche. N'oublions pas d'ailleurs que l'allaitement est recommandé pour réduire le risque d'infection chez les nouveau-nés. Autre préoccupation, et non des moindres, devez-vous autoriser grands-parents ou amis à vous venir rendre visite. L'important est surtout de protéger les nourrissons des virus respiratoires. L'idéal serait donc d'éviter les visites et de privilégier les rencontres virtuelles. Plus facile à dire qu'à faire. Essayez autant que possible de restreindre les rencontres. Respectez la distanciation physique, encouragez vos proches à se laver les mains, à porter un masque et bien entendu à annuler leur venue s'ils ne se sentent pas bien. Enfin, adoptez vous-même une attitude de prévention. Lavez-vous très régulièrement les mains et désinfectez les surfaces fréquemment touchées, poignées de porte ou téléphone mobile.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir, soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis Cedex.
Reflet d'actualité.
Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
Aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Aurouz qui vous propose une réflexion, manquer la cible. Il y a fort longtemps, dans un pays lointain, rassurez-vous, cette chronique concerne bien l'actualité et non un conte de fées. Mais laissez-moi commencer par une histoire qui se déroule il y a bien longtemps, dans un pays lointain. Le personnage principal se nomme Judas. Rien qu'avec ce nom, normalement, vous avez saisi. Il s'agit du Judas de la Bible, des évangiles, du disciple de Jésus. Il y a donc un peu plus de 2000 ans, à Jérusalem, un homme suit un maître. Cela fait 3 ans qu'il parcourt les villes et les villages de Galilée, Samarie et Judée. Un groupe de 12 individus, tous différents, autour d'un homme, Jésus. Commun à l'époque. Ces 12, qu'on appellera plus tard les apôtres, rêvent d'un destin grandiose. Pour eux, Jésus est l'envoyé de Dieu pour rétablir le royaume d'Israël, la royauté de David, de Salomon et de leurs descendants. En chassant les Romains, armés d'occupation, ils retrouveront ainsi leur souveraineté, leur liberté. Et puis, on ne sait jamais, si l'un ou l'autre pouvait obtenir une place dans le nouveau gouvernement, ça serait formidable. Mais rien ne se passe comme prévu. Jésus ne cherche pas le pouvoir, bien au contraire, et ne renverse pas les Romains. Alors Judas va imaginer un plan pour forcer son maître à se dévoiler. Vous connaissez la suite. Judas trahit Jésus. Il est persuadé que l'issue sera favorable pour tous. Malheureusement, là encore, Jésus ne renverse rien. Il se laissera crucifier. Judas vient de manquer son but. Son objectif se transforme en drame. Il s'en voudra d'ailleurs tellement qu'il ira se pendre. Double drame. Il est des événements dans la vie qui peuvent s'apparenter à ce récit. En voici quelques exemples récents. Un énième discours d'un président en fin de mandat, pour mobiliser ses troupes, ses fidèles, ses soutiens inconditionnels. Un discours d'engagement, vibrant. Un discours où une phrase change tout. On va marcher sur Pennsylvania Avenue. On va aller au Capitole. C'était mercredi 6 janvier. L'objectif était d'intimider le Congrès réuni pour valider le vote des grands électeurs et ainsi confirmer définitivement l'élection du 46e président des États-Unis d'Amérique. Vous connaissez la suite. Au lieu de simplement intimider, c'est l'intrusion et l'insurrection. La démocratie a vacillé l'espace de quelques heures. L'objectif se transforme en drame. Du côté de l'écologie, nous pourrions citer tous les efforts pour passer de véhicules thermiques, essence ou diesel, à des véhicules électriques. Certes, peut-être qu'à terme, le bilan sera positif. Mais aujourd'hui, si nous regardons au-delà des seules particules rejetées dans l'air, nous constatons encore le travail des enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Et puis, le retraitement pose encore question. Même si de nouveaux procédés, plus propres, moins énergivores, moins polluants voient le jour, ce n'est pas encore l'idéal. Sans oublier les moyens mis en œuvre pour la production massive d'électricité nécessaire. Le bilan total n'atteint pas ses objectifs. Ces derniers jours, ce fut l'effervescence autour des réseaux sociaux WhatsApp, Signal et Telegram. En effet, WhatsApp a décidé, pour des raisons purement commerciales, de partager les données de ses utilisateurs avec Facebook. Rien de bien méchant. Juste un partage de données pour mieux adapter les offres publicitaires envoyées. Lorsque c'est gratuit, le produit c'est vous, dit l'adage. Contre toute attente, les utilisateurs ont migré sur les réseaux concurrents jugés plus fiables, moins risqué en matière de confidentialité. WhatsApp vacille au point de repousser son projet afin de calmer la tempête provoquée. L'entreprise a manqué sa cible. Évoquons également les mesures sanitaires liées à la crise de la Covid. Confinement, couvre-feu à 20h, puis à 18h, vaccination, etc. Autant de décisions pour sauver des vies. Mais quelle vie ? Là encore, les psychiatres, les sociologues tentent d'alerter sur la santé psychique, morale des plus jeunes générations. Principalement celle des 18-30 ans. Certes, avec les mesures de distanciation sociale, quelle terminologie malencontreuse pour parler de distanciation physique, les différentes formes de confinement et la vaccination, il semble que de nombreuses vies soient sauvées. Mais combien de vies sont ou seront-elles brisées ? Perte de relations sociales, perte d'emploi, perte d'avenir génèrent des perturbations émotionnelles et des fractures psychiques dont les effets se verront à moyen, voire à long terme. L'objectif de sauver des vies sur un plan physique se transforme peu à peu en drame sur les autres plans. Complexe. Un dernier point d'actualité avec l'examen commencé du projet de loi confortant les principes de la République. Préalablement appelé projet de loi renforçant la laïcité, il vise à encadrer les radicalismes religieux et, comme l'a cité le président Macron, principalement ceux de l'islam. Les objectifs seront-ils atteints ? Comptons sur l'implication des responsables religieux de tous bords pour éviter une perte de liberté au nom même de celle-ci. Qu'en est-il de nous, de moi, dans nos choix quotidiens ? Il arrive parfois de bien réfléchir à une situation, de peser le pour et le contre, de faire le bon choix et de s'apercevoir finalement que notre décision manque la cible. Avec humilité, reconnaissons-le, simplement. Et puis, en dernier lieu, il existe une démarche formidable, le pardon. Il soulage, libère et répare bien des situations. Il permet surtout d'avancer et de poursuivre son chemin de vie. La cible sera alors atteinte.
C'était Reflet d'actualité, une réflexion qui vous était présentée par le pasteur Philippe Aurouze. Retrouvez cette chronique en podcast.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Présence, mon Dieu, devant.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en ondes courtes sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre avec votre émission 5 minutes pour comprendre. Et c'est en partenariat avec Hope Channel France que vous pouvez aussi visionner sur le site hopechannel.fr.
Vous êtes à l'écoute de Rencontres et témoignages et je suis aujourd'hui en compagnie de Gérard Fomerand, qui est historien du christianisme.
Bonjour.
Vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Renaissance du christianisme » paru aux éditions Fidélité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos échanges parce que ça fait plusieurs semaines que nous nous retrouvons autour de cette thématique. Et je trouve que ce serait peut-être intéressant que nous puissions nous arrêter sur les trois grands mouvements chrétiens qui occupent l'espace aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les citer, Gérard Fomerand ?
Bien entendu, ces trois grandes mouvances chrétiennes qui occupent l'espace, comme vous le dites, je reprends votre thème, elles occupent un espace. Ce sont bien entendu l'Église catholique romaine, l'Église ou les Églises orthodoxes et les Églises au pluriel, donc protestantes.
Alors donc, ces trois grandes églises qu'on connaît assez bien, en tout cas de nom, est-ce qu'on peut s'arrêter dessus ? Et je vous propose qu'aujourd'hui, nous parlions plus précisément de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il y a à en dire de l'Église catholique, son histoire, son contexte actuel ?
Alors, son histoire, c'est une histoire bien sûr millénaire, très ancienne. C'est la grande église, comme on disait au début du christianisme, puisque donc c'est la grande église qui a réuni pendant presque donc 13 siècles l'ensemble des mouvances chrétiennes, bon an, mal an, avec des courants très contradictoires qui se confrontaient, mais qui, bon an, mal an, étaient maintenus parce qu'ils sont les marqueurs de l'église catholique romaine, à savoir une logique pyramidale, hiérarchique, qui essaie de maintenir dans son giron l'ensemble des sensibilités chrétiennes, même si elles sont contradictoires. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, pour faire très simple, il est bien entendu exclu en 5 minutes d'évoquer, ne serait-ce que brièvement, l'histoire de l'église catholique romaine. Quels sont ses marqueurs? Ce sont ses marqueurs habituels, je dirais la catholicité, comme son nom l'indique, à savoir l'universalité. Un projet permanent, je dirais, d'ouvrir la communion chrétienne à l'ensemble de la terre. Et en ce sens, elle est effectivement catholique, universelle. Deuxième marqueur, c'est aussi l'héritage de l'Empire romain. Donc, un marqueur extrêmement institutionnel. Et car, pour faire coexister des courants aussi contradictoires que ceux qui ont traversé toute l'histoire de l'Église catholique, il fallait une sacrée construction et un sacré bâti pour supporter le poids de ces courants. Or, le miracle est que jusqu'en 1517, date de la Réforme, bon an, mal an, malgré des crises, malgré aussi la séparation de 1054 avec l'Orient chrétien, cette église catholique romaine a survécu sous la forme uniforme jusqu'en 1054, séparation avec l'Orient, jusqu'en 1517, départ des réformés, et actuellement, elle connaît un renouveau depuis notamment le deuxième concile de Vatican II, qui a vraiment été un aggiornamento, une mise à jour, avec un pape François qui est bien sûr atypique, avec un retour à la source évangélique, voire même avec un dialogue avec les mouvances évangéliques, ce qui est tout à fait intéressant, et aussi des crispations, je dirais, qu'ont toutes les églises identitaires, avec des théologies et des pratiques identitaires, des retours intégristes qui sont également indéniables. Donc une église à visage multiple, avec à l'heure d'aujourd'hui une volonté d'ouverture manifeste, représentée par le pape François, et des climats plus ou moins latents, plus ou moins périphériques, ou parfois plus proches du cœur, de crispations identitaires.
L'église catholique, on la retrouve partout dans le monde?
Alors, cette église catholique a une particularité. Alors, au plan géopolitique, elle se décentre. Traditionnellement centrée, comme son nom l'indique, sur l'église catholique romaine, donc sur Rome, elle devient de plus en plus une église non européenne. Elle se répand massivement, en Afrique, notamment, en Asie, on le sait moins. La Chine est en partie catholique, en bonne partie évangélique, mais aussi en partie catholique. Aux Philippines, elle est très importante. En Amérique latine, elle est également très importante, malgré une pénétration de plus en plus forte de la mouvance évangélique.
Du nom catholique, universalité, est-ce que c'est la réalité des choses ?
C'est une réalité relative, comme toutes les réalités, à savoir qu'elle demeure quand même, encore une fois, marquée par son passé romain. Son centre, son cœur est à Rome. Les cardinaux sont quand même à bonne dose italiens. La langue de pratique du pape est plutôt l'italien. Donc nous sommes encore dans une église européenne, mais qui de plus en plus se décentre vers l'outre-mer, vers l'ailleurs, vers l'Amérique, l'Afrique, l'Asie.
Enfin, pour finir, est-ce qu'on peut à peu près quantifier le nombre de catholiques dans le monde aujourd'hui ?
Alors, vous me permettrez de citer l'annuaire pontifical, qui est l'annuaire de référence de l'Église catholique romaine. Il semblerait qu'il y ait une légère décrue de ce nombre, que nous soyons actuellement autour de 1 milliard 200 millions chrétiens catholiques romains.
Gérard Fomerand, merci pour votre participation à cette chronique Rencontres et témoignages. Aujourd'hui, donc, nous reprenions les fondamentaux quant aux trois grandes églises chrétiennes et notamment l'église catholique. Je rappelle que vous êtes historien du christianisme et que vous avez publié un livre aux éditions Fidélité qui s'intitule Renaissance du christianisme, que l'on peut se procurer assez facilement sur Internet ou dans toute bonne librairie. On se retrouve bientôt. Au revoir.
Au revoir et merci à vous.
Connaissez-vous la vie, la vraie ? Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary-Lélis, CEDEX. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.